Saison, c'est un mot qui me trotte dans la tête, saison, parce que les séries et les émissions fonctionnent souvent, vous le savez, par saison. Et parce qu'il y a un plaisir inouï à attendre une nouvelle saison, vous le savez. Imaginer une suite ou plutôt une prolongation, retrouver des personnages, se replonger dans un monde qu'on aime, dans une histoire, dans un paysage, à la jouissance des premières notes d'un générique que l'on connaît et qu'on embrasse volontiers, tout ça par la grâce de la saison nouvelle. Et je me dis en ce moment que le drame des saisons, en fin de compte, c'est qu'on les attend plus. Dans cette époque d'immédiateté, de consommation, de satisfaction quasi épileptique, on triche avec les saisons. On fait pousser des fraises en hiver parce qu'on en a soudain l'envie. On cuisine des topinambours en plein été, on fait pousser des edelweiss un peu partout. On oublie la joie de retrouver un parfum, un goût, un spectacle quand on l'a attendu, justement, quand on s'est un peu langui. Et non sans ironie, je dois dire qu'il y a une certaine beauté dans les agendas culturels aujourd'hui. Qu'il s'agisse de la rentrée littéraire, qu'on appelle aussi la saison des prix, du programme des théâtres qui fonctionne par saison, ou de toutes ces séries et autres émissions, que de produire de l'attente et du bonheur, rien que par le respect de ce que c'est qu'une saison.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui a fondé son art sur le respect du cycle des saisons. Chef 3 étoiles, aux multiples talents, il a redoré le blason du parent pauvre de la cuisine. Le légume, c'est au musée de l'armée qu'on le retrouve actuellement à Paris pour une série de masterclass où il nous apprend comment cuisiner en temps de guerre, roulement de tambour et de topinambour. Bonjour Alain Passard.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Qu'est-ce que ça représente une saison pour vous, tiens?
Une saison, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a autour d'une saison d'abord un rendez-vous et une créativité, bien sûr. Et je me suis aperçu qu'en respectant les saisons, la nature avait tout écrit.
Pourquoi est-ce qu'en cuisine, on a tout intérêt à les respecter?
D'abord, premièrement, par rapport à la santé, hein, parce que vous savez, dans un jardin, chaque chose a un rôle. Quel est le rôle d'une tomate ou d'un concombre? C'est de nous désaltérer puisque c'est de l'eau.
Oui.
Donc on se désaltère en été, oui, quand il fait 25 degrés, et non pas en janvier, quand il fait 0 degré.
Alors quand on choisit de cuisiner des asperges, des fraises ou des haricots verts en décembre...
C'est une erreur.
Et il y a un impact sur l'environnement?
Il y a un impact sur l'environnement et également, c'est ce que je disais, sur la santé. Parce que, bon, en hiver, quand il fait 0 degré, on se réchauffe. Et on se réchauffe avec quoi? Avec une soupe, un gratin de céleri rave, un velouté de panais, vous voyez, un plat chaud.
Oui.
Hein, cette notion de dire... On se réchauffe en hiver, on se désaltère en été.
Et alors dans quelle mesure, Alain Passard, est-ce que le respect du cycle des saisons en cuisine induit une révision à la fois de nos habitudes de consommateurs, mais aussi une révision de notre politique agricole et environnementale? Parce que c'est ça qui est fou.
Bien sûr, et vous savez, je pense que si la nature a créé des saisons, c'est pour éviter la routine. C'est l'histoire, ce sont deux chiffres, le 4 et le 5. Le 4, les 4 saisons, et le 5, les 5 sens. Je n'ai pas la même main en cuisine au printemps avec une asperge qu'en hiver avec un céleri. Vous voyez cette notion? J'ai pas les mêmes parfums en été. Et donc, si vous voulez, du coup, il n'y a pas de lassitude. Et chaque jour devient le premier jour.
Alors, la nécessité de respecter les saisons en cuisine, quand est-ce que vous en avez pris conscience, vous?
J'ai grandi dans une famille où on avait des potagers. Hein, donc, très tôt, j'ai été dans ce rythme de respect de la nature, de respect des saisons. Et après, je l'ai toujours mis en pratique dans mon métier.
Mais quand même, axer votre approche de la cuisine sur la saisonnalité, c'est pas forcément très commun. En quoi ça vous a ouvert de nouvelles portes? En quoi ça a stimulé votre créativité?
Alors, je me souviens, je crois que c'était dans votre émission d'ailleurs, je crois que c'est Daniela Ferrière qui avait dit une très jolie phrase, les couleurs me reposent.
Ah oui, c'est vrai, c'est juste.
J'ai trouvé ça très très beau. Et vous voyez, cette cuisine légumière, elle est à la fois peinture, elle est à la fois couture. Et donc moi, cette cuisine, elle me procure énormément d'émotions. Quand je parle de rendez-vous, c'est quelque chose de très précis. Hein, quand je suis au mois de juin, comme en ce moment, je ne pense que fèves, cerises, légumes nouveaux. Je n'ai pas encore intégré dans ma cuisine les premières aubergines qui vont arriver dans 3 semaines. Vous voyez cette notion de rendez-vous avec le temps.
C'est quand même passionnant de vous entendre parler comme ça du légume dont vous avez fait le clou de vos spectacles culinaires, Alain. Pourtant, pendant longtemps, il a été réduit au rôle de faire valoir des viandes ou des poissons, voire d'accompagnement.
Oui.
Et c'est un gros mot. Pourquoi le légume était-il considéré comme le parent pauvre de la cuisine, tiens?
Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment 4 cahiers de cuisine par an. Et cette cuisine légumière, elle nous invite dans un espace très subtil. C'est la finesse, c'est la délicatesse, gustativement, olfactivement et visuellement.
Alors, à quel moment de votre carrière vous avez compris que le potentiel du légume avait été sous-estimé et ne demandait qu'à être exploré?
Très honnêtement, il y a 20 ans maintenant, quand je me suis lancé dans cette aventure, je ne pensais pas que j'allais soulever cette... c'est une histoire merveilleuse, quoi. Ouais. Moi, j'avais cette envie de travailler le légume, mais bon, je ne pensais pas que 20 ans après, effectivement, de nombreux chefs s'intéressent justement à cette cuisine légumière, qui est pour moi une des plus jolies cuisines qui existent.
Alain Passard, aujourd'hui on est au mois de juin, quel est le légume de saison qui vous tarde de cuisiner là, auquel vous pensez tout le temps?
La fève.
La fève?
La fève.
En quoi est-ce qu'on reconnaît une bonne fève?
Alors, une bonne fève, c'est d'abord une bonne semence, une très bonne graine. Et ensuite, un très bon sol. Parce qu'il n'y a pas un bon légume si vous n'avez pas un sol de qualité. Un sol de qualité, c'est quoi? C'est un sol qui a reposé. C'est un produit vivant, comme vous et moi. Donc, vous savez, un sol, quand on a récolté, par exemple, un céleri rave ou une betterave, mais le sol a tout donné. On ne s'imagine pas comment un céleri rave, avec ses radicelles, peut aller se nourrir dans le sol et complètement le fatiguer. Donc, on récolte le céleri ou autre, et ensuite, un bon engrais vert pour le renourrir, lui redonner de l'énergie. Et à partir de là, on peut refaire quelque chose.
Ça vous est déjà arrivé, Alain, d'être ému par une fève?
Oh oui, par énormément de légumes. Ce qui est surtout intéressant, c'est que là, je viens de redécouvrir la fève. Mais je n'avais pas vu une fève depuis un an.
Alors c'est quoi? C'est sa forme, sa texture, sa couleur?
C'est un ensemble, son goût, sa texture, bien sûr. Et surtout, ces nombreuses imbrications que l'on peut faire avec. Et j'ai quelques petites surprises pour tout à l'heure, qui seront justement autour de la fève.
Ah, ouais. Super. Quelles histoires est-ce qu'il nous raconte, au fond, les légumes?
Une très belle histoire. La nature a écrit une poésie troublante. Vraiment. Moi, j'aime ces quatre rendez-vous par an où j'invite, j'irai ma créativité à faire quelque chose avec eux. Mais vous savez, parfois j'ai un dialogue avec eux. Hein, ils me parlent. Ils me disent mais fais quelque chose avec nous. On est là.
Vous leur répondez quoi?
Je dis mais je suis là. Je suis là. On a le droit d'exister comme la cuisine animale ou la cuisine de la mer. Cette cuisine de la terre. Mais le jour où j'ai eu cette idée, j'ai bien fait de me lever. Hein.
Vous vous souvenez quand c'était?
Oh, c'était fin des années 90, oui, début des années 2000.
Les légumes, ils nous racontent une histoire de poésie, mais aussi une grande histoire. Et c'est un petit peu ce qu'on comprend, Alain Passard, à travers la série de masterclass que vous animez actuellement au Musée de l'Armée, dans le cadre de l'exposition Picasso et la guerre. Il va sans dire que le légume est un produit phare de la cuisine en temps de guerre, évidemment.
Bien sûr. J'aime cette notion de restriction. Parce que dans restriction, il y a le gommage du geste. C'est une cuisine où ils ont énormément effacé la main, parce qu'il y avait très peu de choses.
Oui, c'est ça.
Il y avait très peu de choses. Hein, l'huile était remplacée par de la fécule, il y avait très peu d'œufs, le beurre quasi inexistant. Et donc, on est dans une cuisine où le geste se retient. Et on parvenait quand même à faire des choses qui étaient bonnes. Et moi, c'est un peu ma dynamique aujourd'hui, c'est de gommer la main. On a toujours une main trop présente. Et dans cette restriction, j'aime les résultats que l'on obtient. Parce qu'on s'aperçoit qu'un grand plat, c'est un plat simple. Et parfois, il me faut trois gestes pour le faire. Mais il faut les trouver. Ça veut dire qu'il faut gommer tous ceux qui sont inutiles.
Là, les ouvrages de référence en la matière, c'est un livre paru pendant la Seconde Guerre mondiale que toutes nos grands-mères ont eu entre leurs mains, Cuisine et restriction, d'Edouard de Pomian, un de mes livres phares, un de mes livres de chevet, Alain, entre nous, la lecture de ce livre. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, vous?
Alors donc, dans ces recettes, on s'aperçoit effectivement, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a très peu de choses. Mais il y a quand même quelque chose de fleuri dans ces recettes.
Vous diriez que ce livre, il est encore d'actualité?
Bien sûr, totalement. J'irais même qu'il est, il est même un petit peu, à mon sens, un peu poussé. On trouve quand même des asperges, des haricots verts, donc je sais pas en temps de guerre s'il y avait tout ça. Mais dans l'absolu, il y a quand même des plats qui sont des cuissons très simples, des gestes très simples.
Et il porte en lui, à vous entendre, j'ai l'impression, une conscience environnementale dont on a besoin.
Oui, oui, parce que de toute façon, en temps de guerre, ce qu'il y avait dans le jardin, c'était par rapport aux saisons. hein, donc tout le racinaire, que ce soit les rutabagas, les topinambours, hein, on était dans des périodes automne-hiver, hein, donc il était hors de question d'avoir une tomate à ce moment-là.
N'empêche, c'est passionnant, Alain Passard, faut-il que ce soit la guerre pour qu'on revienne radicalement sur nos errances de consommation, parce que c'est ce que vous nous dites là, demi-mot.
Ben, moi, ce livre m'a énormément appris, parce que on parlait de rendez-vous tout à l'heure, et j'ai vraiment le sentiment que chaque recette est un rendez-vous de parfum, de saveur, et surtout de goût juste. Surtout ça qui est intéressant, le goût juste. Et le goût juste, c'est quoi? C'est un plat qui n'est fait qu'avec des produits d'une saison. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup trop de cuisine où on croise dans la casserole l'été avec l'hiver ou l'automne avec le printemps. Ça ne peut pas marcher.
Quel est le goût juste du topinambour?
Ah, c'est saveur d'artichaut. Ouais, saveur d'artichaut, ouais.
Oui, parce que les Français l'associent à de mauvais souvenirs, parfois.
Oui,
mais je parle pas seulement de souvenirs gastriques, Alain. Évidemment.
Oui, mais bon, il faut reconnaître que si il y avait des graines, des semences, des variétés qui étaient pas spécialement très intéressantes. Mais alors qu'aujourd'hui, vous avez des variétés de topinambour, notamment le topinambour fuseau, qui est un topinambour, mais qui est savoureux, qui est parfumé, qui est vraiment très intéressant en mousseline, en velouté, en gratin, en purée.
Comment redorer son blason?
Ah ben il faut une belle main, il faut une belle main.
Celle qui ne mérite pas qu'on lui redore son blason, et c'est pas faute d'avoir une belle main. Vous la connaissez peut-être, Alain, c'est la culture et son actualité méchante, mal intentionnée et vlaide comme le péché. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 21 juin? Highway to Hellfest à Clisson en Loire-Atlantique. C'est parti pour la 14e édition du Hellfest Festival, au programme Pogo, Binouze, Perfecto et du métal à toutes les sauces. On attend Manowar, Slayer, Lynyrd Skynyrd ou Slash des Guns N' Roses. Autre salle, autre ambiance. Les Solidays investissent les pelouses de Longchamp pour le week-end, avec notamment les concerts du Supreme NTM, d'Angèle ou de The Blaze. Cap au sud, enfin, avec Mawazine, la grosse teuf de Rabat au Maroc, qui s'offre le grand retour sur scène des Black Eyed Peas, mais aussi Aurel San, Travis Scott, Migos ou Aya Nakamura. Bref, de quoi se la jouer. Bang, 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 bang. Can you feel the love tonight? Et Beyoncé brille sous les étoiles alors que Disney s'apprête à sortir dès cet été son adaptation en live action du classique Le Roi Lion. Un nouveau teaser mis en ligne hier révèle la reprise de la chanson mythique Can You Feel the Love Tonight par Queen Bee et Donald Glover, signée et chantée à l'origine par Elton John. La balade avait valu à l'icône pop de recevoir l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1995, ainsi qu'un Golden Globe et un Grammy Award. Alors qui pour la reprise d'Hakuna Matata, Oggy? Est-ce que tu la sens, la grosse vibration, là, ce soir? France Inter investit rien de moins que l'Olympia pour fêter la musique tout en vibration et en bon son, retransmis en direct sur l'antenne à partir de 20h. La soirée animée par les sautillants Rebecca Manzoni et Didier Varro verra défiler la crème de la playlist maison. On pourra compter sur les vibes groovy de l'envoûtante Jana Dead, le rap souple du fascinant L'Homme Pâle, le rock fiévreux des gosbos belges de Balthazar ou la pop soyeuse de la liane rétro Clara Luciani. On dit oui. Let's Dreams. On apprenait hier la terrible disparition de Philippe Starr, pionnier de la French Touch et moitié du duo Cassius. Aujourd'hui dans les bacs, on découvre Dreams, le dernier album du groupe sur lequel le musicien laisse son empreinte hédoniste solaire. En tout 50 minutes d'une house soyeuse, sensuelle, lumineuse, conçue comme la bande-son d'une belle soirée d'été. Une soirée qu'on aurait tous dû passer et à danser avec Starr et son acolyte Hubert Boumbas qui devait nous accompagner ce soir à l'Olympia. Alors ce soir, bien sûr, on dansera, on chantera, mais surtout on rêvera à Philippe Starr et à l'immense héritage qu'il nous laisse. Le chef Alain Passard, invité de Boomerang ce matin. Alain, vous êtes né à la Garge de Bretagne au milieu des années 50. Dans quel environnement culinaire est-ce que vous avez grandi, au juste?
Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi d'abord dans une famille très artistique, donc un père musicien, une maman qui était passionnée de couture, une grand-mère cuisinière.
Ah. Ah, donc à la question qui cuisinait chez les Passard, la réponse est mamie.
Ah oui, ouais, la grand-mère était déterminante. Et j'avais un grand-père qui était assez étonnant, qui était rôtinier, vannier, travaillait l'osier. Et il travaillait le bois, il faisait des sculptures en bois. Donc quelque part, les cinq sens étaient partout.
Mais votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle cuisinait?
Alors donc, en Bretagne, bien sûr, énormément de produits de la mer, hein, coquillages, les volailles. Et c'était déjà une cuisine très légumière. Hein, donc, comme nous avions les potagers, donc c'était une cuisine qui avait énormément de caractère. Ma grand-mère était un très grand rôtisseur.
Ah.
Elle aimait le feu, elle aimait la flamme. Elle travaillait sur un fourneau à bois. Hein, donc, c'était pas un grand saucier. Les sauces, peut-être parce que je savais pas les faire.
Mais alors, votre enfance, à quel goût est-ce que vous l'associez à la Passard? Quelle est votre Madeleine de Proust?
Très tôt, moi, j'ai eu envie de me servir de mes mains. Si vous voulez, vous avez un grand-père qui travaille le bois, vous avez un père musicien, clarinette, saxo, batteur, cette mère qui nous laissait sur la table de la cuisine tous ses tissus, ses craies. Et donc, j'ai eu envie très, très vite de créer. Et donc, je leur ai demandé rapidement de me trouver un apprentissage en cuisine, quoi. Et j'ai eu une chance fabuleuse, c'est d'être formé par un très grand chef qui est Michel Kerrévert à Liffré, un petit village à côté de Rennes, qui m'a tout appris, quoi. Grand associé, grand rôtisseur, et j'ai passé 8 ans à ses côtés.
En entrant dans ces cuisines, celle de l'hôtellerie du Lion d'Or, quel univers est-ce que vous avez découvert? Vous vous en souvenez?
Oui, il y avait quelque chose de très fort dans cette école, je dirais, l'école du goût. En cuisine, il y a différentes écoles, et cette école du goût que Michel Kerrévert nous apprenait à travailler était très forte chez lui. C'est-à-dire, c'était un grand souci, et donc les moments d'assaisonnement étaient très précis. Grand rôtisseur également, hein, l'école du feu, il nous a appris à dompter la flamme, à apprivoiser sa puissance.
Vous pourrez m'apprendre, moi, à dompter la flamme, peut-être, un jour, à l'impassable. Je dois avouer que l'expression, je l'adore. Hein. Mais en quoi l'atmosphère qu'il y avait dans ces cuisines, à l'époque, diffère-t-elle de celle qu'il y a aujourd'hui?
Nous avions déjà au Lion d'Or, chez Kerrévert, quelque chose de très actuel. C'est déjà un restaurant étoilé, donc il y avait déjà le souci du bien faire, c'était à l'époque, vous savez, des très bonnes terrines, il y avait des galantines de volaille, des chauds froids de volaille.
Ça n'a pas changé. On le retrouve encore aujourd'hui.
Ça reste encore aujourd'hui. Michel Kerrévert est un personnage qui a été déterminant dans beaucoup de choses dans la cuisine française, et notamment dans la cuisine bretonne. Moi, il m'a fait découvrir des subtilités, des finesses, et aujourd'hui, si je suis un petit peu là, c'est aussi un peu grâce à lui.
Par exemple, quelle est la plus belle leçon qu'il vous ait enseignée? Peut-être sur un légume, Alain Passard?
Curieusement pas, c'était sur le travail des poissons. Nous étions en Bretagne, il avait une main pour travailler la sole, par exemple. On faisait une sole soufflée au champagne. Donc là, il fallait préparer la sole, donc totalement désarrêtée de l'intérieur.
Oh là là.
Et parallèlement à ça, donc on préparait une mousseline de saumon qui était légèrement coraillée avec un peu de blanc d'œuf pour lui donner cet aspect un peu soufflé. Et tout ça était braisé au champagne et terminé avec un copeau de beurre et une cuillère à soupe de crème fraîche.
Oh là là.
C'était. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ce sont des souvenirs que je revis, mais il y avait un petit côté chef-d'œuvre, hein, dans tous ces plats.
On s'en souvient toujours?
Oui, tout. Je me souviens de toute la carte. Il y avait le turbo Isabelle, qui était un turbo, qui était également servi avec un parfum de saumon fumé, les filets de sole Pompadour, tomates.
Mais vous avez la mémoire du goût, vous savez exactement quel goût ça avait.
Oui, absolument. Ouais. Quand on a la chance de travailler auprès des plus grands, on se souvient de beaucoup de choses.
Et vous le retrouvez parfois, ce goût? C'est-à-dire en recherchant, en expérimentant?
Parfois, effectivement, ça peut être sur un autre plat, ou ça peut être également un geste, hein, retrouver un geste que je faisais autrefois, et je le connais très bien, retrouver ses sens, en fin de compte, un parfum, un visuel.
Et quand est-ce que vous avez compris que la cuisine, c'était un art? Très tôt?
Non, pas très tôt. Je m'en suis surtout aperçu ces 20 dernières années, quand j'ai mis la main sur cette cuisine légumière. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi la main du cuisinier ne serait-elle pas une main artistique, surtout quand elle est légumière?
Cet art, justement, du légume, comment est-ce que vous le définiriez? Parce que c'est pas commun, quand même.
Non, absolument. Vous savez, on se rapproche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on se rapproche à la fois de la couture par rapport aux saisons, on se rapproche des couleurs, hein, par rapport à la peinture. C'est chaque saison a ses couleurs. Et le fait de respecter les saisons, il n'y a pas de lassitude. Donc, on est toujours ému. Vous savez, quand là, on tape du pied en ce moment, parce que dans quelques heures, la première tomate va franchir la porte de la cuisine de l'arpège.
Sans compter la fève, qui va pas tarder non plus.
Mais c'est ça, mais l'histoire, elle est là. quand vous n'avez pas touché une fève ou une tomate depuis un an, le plaisir que vous avez de retrouver les produits.
Mais alors quand vous en voyez une comme ça dans un marché alors que c'est pas du tout la saison, vous dites quoi ?
Ah mais je la regarde pas.
Vous la regardez pas.
Je la regarde
vous
pas.
Vous l'ignorez la vilaine.
Bah, oui, bah, elle y est pour rien malheureusement, mais je pense qu'on ne devrait même pas appeler ça une tomate parce que si vous voulez, quand vous avez des produits qui arrivent du Maroc, d'Espagne, de Hollande, qui sont hors sol, hors saison, avec des traitements très appuyés, ce sont des produits qui poussent en 50 jours. Mmh. Bah nous dans notre jardin, une tomate c'est 5 mois. Avec le soleil, la lumière, la chaleur.
Quelle a été votre première œuvre d'art, Alain Passard ? Pour la création culinaire pour laquelle vous êtes dit que vous aviez peut-être trouvé, inventé, créé quelque chose ?
Ah, écoutez, c'était une salade de pommes de terre. J'étais en apprentissage.
Là, vous parlez à un Auvergnat, la salade de pommes de terre, c'est très important pour nous.
Absolument, ouais. Donc, c'est avec oignons, échalotes, les herbes et tout ça. Et au dernier moment, quand personne ne me voyait en cuisine, je rajoutais un verre à liqueur de vin blanc.
Oh, le blasphème.
Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette saveur?
Et c'était du petit blanc.
Oui, c'était...
Oh là là. Bon, bah, on va continuer à chercher, alors, à inventer, à créer ensemble. On va continuer à saliver aussi, parce que vous me donnez faim, moi. Après tout, c'est l'heure du petit déjeuner. Je vous propose une chanson de circonstance. Pour moi, c'est un casse-croûte idéal. Les cornichons. Nino Ferrer, évidemment, en 1965. Vous êtes sur France Inter avec Alain Passard. Vous écoutez Boomerang, évidemment. C'est-à-dire qu'il n'a rien du tout d'un cornichon. Avec lui, on est quelque part entre la douceur blanche d'un panais, la fantaisie capillaire d'un chou romanesco, l'acidulé d'une framboise dans le regard, la rugosité lumineuse d'une belle carotte de sable que l'on vient de ramasser. Il est moins légume oublié que légume célébrité. Tout dandy ce matin avec sa chemise blanche et son écharpe bleue, son pantalon rayé bleu et blanc et ses petites chaussures blanches. Le chef Alain Passard, invité de Boomerang. Et comment ne pas vous faire réagir, Alain, à cette plante potagère dont Nino Ferrer vient de nous chanter les louanges, le cornichon. Un cornichon entre vos mains, qu'est-ce qu'il devient ?
Alors, donc, je trouve que c'est un fruit Merveilleux.
Ah, c'est un fruit déjà.
C'est un fruit, il y a des pépins et tout, ouais. Et effectivement, donc je crois qu'il faut le sortir du vocal, quoi.
Ben c'est ça, parce que les gens pensent que quand ils chantent, c'est tout petit tour à bougri, alors ouais. Que pas du tout.
Mais pas du tout, c'est, ouais. Vous savez, vous pouvez faire parfait. Nous parlions des fèves tout à l'heure. Ouais. Vous faites une petite salade de fèves, oignons nouveaux, petite pointe d'estragon pour le côté anisé.
Pas de vin blanc alors.
Oui. Un vinaigre de vin blanc. D'accord. Peut-être. Petite touche. Et vous rajoutez les cornichons coupés en aiguillettes avec une huile d'olive. C'est merveilleux. Et autre recette également, le cornichon chaud.
Comment ça?
Un petit velouté de cornichons. Donc pareil, donc vous les coupez en morceaux, vous les faites un petit peu...
Fondre en fin de compte.
Fondre dans un petit copeau de beurre, vous recouvrez de lait entier, vous laissez cuire une poignée de minutes, vous me mixez, vous allez obtenir un petit velouté de cornichons frais, vous me servez ça avec un pavé de cabillaud ou une volaille.
Et moi je prends des notes là, parce que là c'est
délicieux, voilà,
que
vous êtes en train de nous faire. Un petit velouté de cornichons frais... Fabuleux.
Et alors moi, j'adore regarder vos mains, là, quand vous êtes en train de me parler. Vos mains qui bougent tout le temps. Ouais. Qu'est-ce qu'elles représentent, d'ailleurs, vos mains, pour le cuisinier que vous êtes?
C'est un peu comme les musiciens, hein, si vous voulez. On parlait d'école tout à l'heure, l'école du geste. Mmh. Voilà, une école qui est très intéressante. Hein. L'école du geste, c'est effectivement l'agilité de la main, la souplesse des doigts. Je pense, aujourd'hui, sincèrement, que au sein de notre profession à la cuisine, je pense que c'est surtout la main qui fait la différence entre nous. Plus que le goût, je dirais. La main, le geste.
Pour vous, dans quel geste se réalise toute la grâce d'un cuisinier?
C'est très difficile à dire parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est la façon de poser les choses, la façon de prendre les choses également est très importante. Quand vous prenez un petit peu de fleur de sel, la façon de la distribuer comme ça sur une volaille ou dans une salade, à ce qu'on appelle le voyage de la main.
Vous avez toujours su, vous étiez doué de vos mains?
Non, ça c'est, je sais pas d'ailleurs si je le suis vraiment.
Bah, mais... Un petit peu quand même.
Oui, mais enfin vous le savez comme moi, il y a rien sans le travail. Oui. Hein, on peut avoir une jolie main, mais il faut quand même de toute façon toujours entretenir.
Et le travail musical, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes aussi saxophoniste. Pourquoi le saxophone d'ailleurs? Quel instrument est-ce que c'est pour vous?
Alors le saxo, c'est mon père qui était saxophoniste et qui m'a enseigné cet instrument. Et ensuite, j'ai fait des très jolies rencontres. Notamment Lionel Belmondo, qui adore la table, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai pris des cours avec Lionel, et puis j'aime l'instrument, j'aime la mémoire des doigts sur un saxo, mais il faut voir la main, cette vélocité qu'il peut y avoir sur l'instrument. Puis on s'aperçoit que je reste quand même toujours dans le cuivre, hein. c'est un peu ce que j'ai en cuisine.
C'est bien Lionel Belmondo, le saxophoniste qui joue John Coltrane ici, et c'est lui que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin, Alain Passard. Par quelles émotions est-ce que vous êtes traversé quand vous entendez ses doigts?
Je le vois bien sûr, hein. je vois sa concentration qu'il peut avoir sur l'instrument, et puis toutes ces influences qu'il a, effectivement, Coltrane, Getz, Gordon, il a un petit côté très... très touchant, hein. Il a un timbre, il a un son qui est fou.
C'est du jazz, la cuisine?
Oui, ah oui, un peu, oui. Ah ouais.
Avec de l'impro?
Avec de l'impro, et puis, vous savez, en cuisine, il y a le chant du feu, hein. Et pour moi, le chant du feu, c'est un peu la flamme d'un saxophone. Hein.
Dans quelle mesure est-ce que la cuisine a à voir avec l'émotion pour vous? Parce qu'à vous entendre depuis le début de cette émission, j'ai l'impression que ça n'est que ça.
Ah oui, ce n'est que émotion. Il y a en permanence, vous savez, vous allez prendre un légume tout simple qui sort de terre. L'émotion va commencer là. Après, vous avez le toilettage du légume, la façon dont vous allez le brosser sur une eau claire, le débarrasser de sa terre. Et ensuite, lui passer un petit torchon fin pour l'essuyer et puis le travailler en rondelles, en aiguillettes.
Vous voulez dire qu'une salade, vous nettoyez chaque feuille?
Ah,
et
ouais.
Tout est important. Éponger chaque feuille. Tout,
le toilettage d'une salade est très important.
Le toilettage d'une salade?
Ah oui, dans un volume d'eau important. On toilette toujours une salade dans un volume d'eau important. On récupère l'eau après pour les plantes. Et ensuite l'essorage en petite quantité dans les
sauvettes.
Petite quantité, on a toujours tendance à essorer les salades.
Alors ça ne m'en parlait pas.
Pour que les feuilles ne soient pas brisées et qu'elles soient bien essorées. Petite quantité.
Alain, vous nous avez fait un cadeau là. vous avez voulu partager avec les auditeurs de Boomerang une recette inédite dont vous n'avez rien voulu me dire, on vous écoute.
Tout à fait, je vais l'improviser parce que c'est toujours mieux. On parlait des fèves. Vous savez, qu'est-ce qui se passe au-dessus des fèves en ce moment? On va faire une cuisine de voisinage. C'est quoi une cuisine de voisinage? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans le jardin au mois de juin? Au-dessus des fèves, il y a un arbre qui s'appelle le cerisier. Et curieusement, les cerises, quand elles sont mûres, elles tombent sur les fèves.
Ah, c'est la nature qui fait la cuisine, là.
La recette est faite. Salade de fèves aux cerises fraîches, avec une petite huile de colza, toute petite pointe de vinaigre balsamique pour rappeler un petit peu le côté cerise, quelques herbes, en ce moment à la verveine, le thym est en fleur. Parfait.
Mais les fèves, faut les cuisiner comme ça ou alors elles sont
crues? Ah non, accrues, une salade accrue, tout accru, crudité. Fèves écossées, décortiquées, dans le saladier, quelques cerises fraîches dénoyautées, crues, fraîches comme ça. Une huile de colza ou une huile d'olive, toute petite pointe de balsamique, quelques herbes, coriandre par exemple, basilic, ça peut être très beau, côté floral. Là, juste deux saveurs.
C'est une entrée.
Ou alors ça peut faire une jolie salade en dessert.
Alors qu'est-ce qu'on met avant ou qu'est-ce qu'on met après?
Ah bah après...
Vous me vendez du rêve là.
Ah bah oui, de toute façon là les premières tomates vont arriver. Donc fatalement le fameux carpaccio de tomates.
Un carpaccio de tomates.
Carpaccio de tomates, la noire de Crimée, sublime, avec une huile d'olive dans laquelle vous aurez ajouté 3 gouttes de fleurs d'oranger.
Oh,
délicieux. Rien d'autre. Pas d'acidité, la tomate a sa propre acidité.
Alors fèves, cerises, tomates...
Et puis allez, la ratatouille va s'imposer dans quelques jours. Donc le caviar d'aubergine à la flamme. L'aubergine cuite sur la flamme. Vous allumez le feu, vous posez l'aubergine sur la flamme en direct. Il faut que la peau soit bien noircie, de façon à lui apporter un petit côté fumé. Et ensuite, vous récupérez la pulpe qui a pris ce petit côté fumé. Et donc ça, vous avez un menu superbe.
J'ai tellement faim ce matin. Merci infiniment Alain Passard pour Augustin. Toutes ces émotions culinaires. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que vous serez le 2 juillet prochain au Musée de l'Armée dans le cadre de l'exposition Picasso et la guerre pour une masterclass. Merci à vous et merci à tous les marmitons de Boomerang. Céline Hila, la chef de salle, Valentine Chedebois, la plongeuse en chef, Léonard Billot, le commis numéro 1, Pierre Martinerie, le sommelier, Paul Guillot, le garçon en livrée et Jean-Baptiste Libert, le chauffeur de salle, parce que oui, c'est un mariage. On se retrouve lundi, les amis. Mais tout de suite, la médiatrice de Radio France, juste après ça.
Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France. On était déjà passé par là en vanne. Sur scène je donne tout, j'en ai 2000 devant. Mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan. Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seul dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gaffes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque.
Évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seuls dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Et évidemment, l'Homme Pâle sur France Inter qui fera l'ouverture, l'Homme Pâle de l'Olympia ce soir avec France Inter pour la fête de la musique. N'oubliez pas de regarder le Pop & Co, le labo de notre amie Rebecca Manzoni et de son acolyte Hugo Combes qui est consacré justement à 1000 degrés de l'Homme Pâle et qui sort aujourd'hui.